Vous êtes sur RTL.
RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. C'est parti pour une heure d'infos, de débats, mais aussi d'opinions, puisqu'à partir de 13h, vous le savez, comme tous les jours, vous avez la parole au 3210. N'hésitez pas si vous souhaitez réagir à l'actualité de ce mardi 23 août. L'ambulance qui a fauché deux ados à trottinette à Lyon hier avait bien le droit de rouler sur une voie de bus. En revanche, la vitesse était-elle respectée? Quelles sont les règles en la matière? On vous explique tout dans un instant. Recherche enseignants désespérément. Cette année, c'est encore pire que d'habitude. 4000 postes de profs restent à pourvoir alors que nous sommes à 9 jours à peine de la rentrée. Notre invité dans RTL Midi, Jean-Rémy Girard, président du syndicat national des lycées, collèges et écoles du supérieur. C'est aussi notre question sur RTL.fr. Aimeriez-vous devenir professeur? Vous dites oui à 14%, non à 82%. Dans ce journal également, après les centres éducatifs fermés, le ministre de l'Intérieur envisage des lieux de rééducation et de redressement encadrés par des militaires. Et puis les championnats de foot reprennent dans de nombreux pays. Pas d'exception en Ukraine, même si le pays est en guerre depuis 6 mois. Le coup d'envoi a été donné il y a moins d'une demi-heure. Bonjour Anthony Kaczmarek.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
La météo c'est avec vous et les températures sont en hausse.
Oui, ça y est, la chaleur s'installe. On sera entre 22 et 26 degrés, certes près de la Manche, mais 26 à 31 degrés partout ailleurs et déjà 30 à 35 près de la Méditerranée. 28 à Lille et à Paris cet après-midi, 30 à Lyon et Toulouse, 31 à Strasbourg et Grenoble. Côté ciel, encore un ciel chargé en Bretagne et en bord de Manche, avec encore peut-être quelques bourrine, mais partout ailleurs, le soleil va s'imposer avec peut-être encore un peu plus de nuages entre les Pays de la Loire, l'Île-de-France et les Hauts-de-France, mais là aussi, les éclaircies seront de retour avant la fin de la journée. Une averse possible sur le Mercantour et la montagne Corse et toujours un peu de mistral dans la vallée du Rhône.
Merci Anthony, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Ils avaient 15 et 17 ans. Hier, deux adolescents sont morts à Lyon après avoir été percutés par une ambulance sur une voie de bus. Bonjour Frédéric Perruche.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de RTL et vous avez pu obtenir de nouvelles informations sur les circonstances du drame.
Exactement. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que la trottinette électrique, comme l'ambulance, circulait bien sur cette voie de bus en ligne droite, quai de Saône, dans le même sens. Le véhicule sanitaire était autorisé à emprunter cette voie spécifique, mandatée par le SAMU pour une intervention urgente. Mais il roulait vite, trop vite sûrement, sur cette zone 30 km/h autorisée. Si l'on se fie à l'état de l'ambulance, pare-brise lourdement enfoncé, côté droit, phare et pare-choc endommagé, Jacques est un riverain. Il raconte.
J'étais dans mon salon, ma fenêtre qui était ouverte, j'ai entendu un énorme boom, j'ai ouvert la fenêtre, je suis sorti et j'ai vu effectivement une ambulance qui était dans le couloir de bus et devant il y avait la trottinette. Hein. Et puis j'ai mon voisin qui est médecin qui est descendu et qui a constaté que malheureusement que la première avait décédé parce qu'elle avait le cerveau qui était sorti. Et puis la deuxième était dans un état catastrophique, il a dit. Et puis quand le SAMU est arrivé, les pompiers en premier, le SAMU après, c'est eux qui ont pris le relais. Et puis c'est tout. Dans mon salon, je n'ai pas entendu de pimpon d'une ambulance qui circulait.
D'autres témoins, au contraire, assurent avoir entendu la sirène, les avertisseurs sonores, juste avant le choc. Le conducteur de l'ambulance, âgé de 36 ans, est en garde à vue. Les dépistages alcoolémie et stupéfiants sont négatifs, mais selon nos informations, il roulait avec un permis probatoire sur lequel il n'avait plus que 2 points sur 8 après s'être fait retirer son permis de conduire en 2019 pour 28 infractions au code de la route, dépassement de lignes blanches, vitesse excessive ou défaut d'assurance.
Merci Frédéric Perruche, le correspondant de RTL à Lyon. Une ambulance a-t-elle le droit de rouler sur une voie de bus? Si oui, à quelle vitesse? Pour aller plus loin, nous sommes avec Christophe Bougie. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Vous êtes vice-président et membre du comité directeur de la Fédération nationale des artisans ambulanciers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel cas vous pouvez rouler effectivement dans une voie de bus?
Tout d'abord, je tiens à adresser mes condoléances aux familles des victimes de ce dramatique accident. Pour répondre à votre question, cela dépend d'arrêtés municipaux et préfectoraux qui nous autorisent ou pas à utiliser soit la totalité des voies de bus, soit une partie des couloirs de bus dans le cadre d'interventions et notamment sur appel du SAMU. On a une tolérance, si vous voulez, d'utilisation de ces couloirs de bus à l'heure actuelle. Mais tant qu'il n'arrive rien, tout va bien.
C'est que lorsque le SAMU vous demande d'intervenir que vous avez le droit de les emprunter, ces couloirs de bus ?
Alors, à l'heure actuelle, sur certaines communes, oui. Sur d'autres communes et des grandes agglomérations, notamment par exemple sur Toulouse, on n'a que des tronçons que l'on peut utiliser. Sinon, nous n'avons aucune autorisation. C'est simplement une tolérance que nous avons.
D'accord. Et lorsque vous êtes sur un couloir de bus, est-ce que vous avez le droit de ne pas tenir compte des limites de vitesse si vous êtes en intervention ?
Alors là aussi, c'est dans le cadre du SAMU, on est assimilé à des services publics. On a une tolérance d'excès de vitesse qui est de 20 ou 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Mais il faut bien prouver que ce soit une intervention sur demande du SAMU. C'est une dérogation, c'est une tolérance. Bien entendu, comme tout véhicule de secours, que ce soit pompier, gendarmerie ou police, voilà, tant qu'il n'arrive rien, une fois de plus, tout va bien. Et dès que malheureusement il y a un drame, ben là tout est recontesté et autres.
Oui, mais c'est pour ça qu'on essaie de comprendre. Vous avez entendu Frédéric Perruche, hein, notre correspondant sur place. L'ambulancier dispose d'un permis probatoire. Là aussi, on se pose des questions. C'est autorisé d'avoir un permis probatoire lorsqu'on conduit une ambulance ?
Alors, cette information, je viens de la prendre juste au départ. Alors, effectivement, le permis probatoire, c'est particulier, puisque pour être ambulancier, déjà, il nous faut avoir les 3 ans de permis. Donc, les jeunes conducteurs ne sont pas autorisés. Mmh. Après, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants concernant...
L'affaire en elle-même, oui.
Voilà, l'affaire en elle-même. Uniquement, et je l'entends par respect pour les victimes, la rétention d'informations faites par les médias sur réellement toutes les circonstances réelles de cet accident.
Mais avoir des infractions de routière, avoir des infractions à son casier, infraction routière 28, là en l'occurrence, hein, c'est ce que nous disait Frédéric Perruche concernant ce conducteur, ça ne pose pas de problème lorsqu'on a un permis, y compris probatoire, pour conduire une ambulance. Vous employez, vous, des personnes sans souci lorsqu'elles vous disent qu'elles ont un permis probatoire ?
Alors, moi, à titre personnel, non du tout. Je n'embauche pas des personnes avec un permis probatoire. Et de plus, c'est de notre responsabilité de vérifier de temps en temps, comme tout employeur des transports, que ce soit transport routier, de voyageurs ou de personnes. On a un devoir de contrôler les permis et le nombre de points, même si on n'a pas le savoir, mais que nos chauffeurs soient en capacité d'avoir un nombre de points minimum pour pouvoir exercer, afin de pouvoir éventuellement... en cas d'infraction, pouvoir continuer à avoir le permis, quoi. Être en possession du permis.
Ouais. Ça fait partie en tout cas des critères de recrutement. Vous regardez vraiment ce qui est inscrit sur le casier d'une personne, notamment en matière de routière.
La réglementation ne nous autorise pas à aller jusqu'au casier judiciaire ou sur le permis. C'est simplement sur des attestations sur l'honneur, ou si la personne veut, de bonne foi, veut nous donner une attestation du nombre de points qu'elle a sur son permis. Voilà, malheureusement, la loi ne nous autorise pas à réellement aller au vif du sujet.
Merci beaucoup, en tout cas, Christophe Bougy, d'avoir répondu à nos questions. Ça nous permet un petit peu d'y voir plus clair, de comprendre comment cela fonctionne. Je rappelle que vous êtes vice-président et membre du comité directeur de la Fédération nationale des artisans ambulanciers. On parlait donc des ambulances. Là, je me tourne vers vous, Léonard Cassette, pour comprendre si une trottinette, cette fois, a le droit de rouler dans une voie de bus.
Alors la réponse est oui, mais c'est un peu technique. Les utilisateurs de trottinettes sont tenus de rouler sur des pistes cyclables quand elles existent. Et quand ça n'est pas le cas, alors il est possible de rouler directement sur la chaussée, donc par exemple sur une voie de bus, si et seulement si elle est répertoriée comme voie cyclable. Et pour ça, en fait, tout est question de signalisation. C'est ce qu'explique James Belland. Il fait de la prévention sur l'utilisation des trottinettes auprès du grand public.
Si on retrouve le panneau qui est autorisé pour les vélos, nous avons la possibilité de pouvoir en tout cas circuler également en trottinette électrique. Il faut juste en tout cas faire attention à la signalisation.
Oui, dans le cas de cet accident à Lyon, les deux jeunes circulaient donc sur une voie de bus. Par contre, ils étaient à deux sur la même trottinette et ça, c'est interdit depuis 3 ans, depuis que les trottinettes électriques sont soumises au code de la route dans la catégorie engin de déplacement personnel.
quand on entend engin de déplacement personnel, c'est pour l'utilisation d'une seule personne. Donc effectivement, les déplacements en trottinette électrique ou sur autre DPM sont interdites à deux.
Et sur la route, ces mêmes trottinettes ne doivent pas dépasser les 25 km/h. Le casque, lui, est vivement conseillé. Les équipements réfléchissants, eux, par contre, sont obligatoires la nuit.
Merci pour ces précisions. Léonard Cassette pour RTL.
RTL Midi.
Opération recrutement dans les académies. À 9 jours de la rentrée, il manque encore 4000 professeurs. Le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, s'est d'ailleurs spécialement rendu ce matin dans la cellule chargée des solutions de dernière minute. On peut dire ça comme ça, Pierre Herbulot.
Oui, absolument. À Créteil, l'embauche des fameux contractuels. Voilà la solution de dernière minute. Des CDD recrutés le temps d'une année scolaire pour boucher les trous, pour combler le manque de vrais profs, entre guillemets. Ça, c'est ce que disent les syndicats d'enseignants. Ils pointent du doigt la légèreté des conditions requises pour être embauché. Juste un bac plus 3 et avoir travaillé dans le secteur en rapport avec la matière enseignée. Un ingénieur en maths, par exemple, pas besoin d'avoir la moindre expérience d'enseignement. Des contractuels qui seront formés en un temps record avant d'être face aux élèves dans 9 jours. Rien d'inédit, à part peut-être l'ampleur du phénomène. Le taux de réussite cette année au CAPES, le concours d'entrée pour devenir prof, c'est 83%. L'an dernier, c'était 94%. Résultat, 4000 postes vacants pour cette rentrée. C'est en Île-de-France qu'on manque le plus de profs, notamment en allemand, en lettres classiques, en physique, chimie et en maths.
Merci beaucoup Pierre Herbulot. Jean-Rémy Girard, vous êtes avec nous dans RTL Midi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur. Et professeur de français à Asnières-sur-Seine.
Tout à fait.
Concrètement, 4000 professeurs qui manquent à l'appel, ça veut dire quoi sur le terrain ? Est-ce que vous pouvez nous donner
sur
des exemples ?
Sur le terrain, ça veut dire qu'il peut y avoir des difficultés à la rentrée. C'est pour ça qu'il y a ces recherches de contractuels encore aujourd'hui. Et aussi, les chefs d'établissement qui sont rentrés de vacances voient parfois qu'il leur manque 12 heures dans telle discipline, 6 heures dans une autre. Tout le monde n'est pas encore nommé sur tous les établissements. La plus grande difficulté, en fait, elle ne va pas être le 1er septembre. Elle va être en cours d'année. Parce qu'en fait, on a plus de remplaçants. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un tombe malade, si quelqu'un a un congé maternité, si quelqu'un démissionne, il y a de plus en plus de départs volontaires chaque année, eh bien, on aura de plus en plus de mal à trouver des remplaçants. Donc, le risque, c'est qu'on ait quelque chose qui existe déjà, mais qui risque de s'amplifier, comme vous le disiez très bien, c'est de plus en plus d'absences non remplacées et pour des durées parfois de plus en plus longues, d'un mois, deux mois, trois mois. Ça risque d'augmenter.
Mais est-ce que cela veut dire que dans 9 jours, à la rentrée, il y aura des enfants qui auront des trous dans leur emploi du temps ?
C'est possible. Alors, ils n'auront pas tant des trous dans leur emploi du temps que pas de professeurs sur la case. Ça peut arriver. Ce ne sera pas la norme, ce sera l'exception. Parce qu'une fois encore, on recrute ces contractuels de manière très massive. Encore faut-il les trouver, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de devenir professeur du jour au lendemain avec une incroyable formation, au mieux de 4 jours. Et encore, là, on fait des efforts, parce que nous, on connaît des contractuels qui sont balancés du vendredi au lundi, en temps normal. C'est comme ça que ça se passe dans l'éducation nationale.
Avec les difficultés que cela implique, on imagine.
Avec les difficultés que ça implique, parce qu'enseigner, c'est un métier. C'est pas parce que vous avez éventuellement des connaissances dans une discipline ou dans un certain nombre, parce que ça concerne aussi maintenant, ça c'est assez nouveau, les professeurs des écoles, dans le premier degré, à l'école primaire, et les professeurs des écoles, ils enseignent 10 enseignements différents. C'est des sortes d'hommes et de femmes orchestres. Et ça s'apprend pas du jour au lendemain. Donc effectivement, beaucoup de contractuels, on le sait, ne finissent pas l'année. Il y a un taux d'évaporation chez ces contractuels qui est très important. Il y en a qui vont démissionner, qui vont rompre leur contrat en cours d'année. Il faudra chercher un contractuel pour remplacer le contractuel. Il y a des élèves parfois, souvent à Créteil, qui est généralement la zone où se concentre le plus de problèmes, qui voient passer 3, 4, 5 profs de la discipline pendant la même année scolaire.
Et comment expliquer ce manque de profs aujourd'hui en France ? C'est pas la première fois qu'on en parle, on va pas faire semblant de découvrir le sujet. Y a-t-il une crise des vocations ?
Oui, il y a une crise des recrutements. Alors nous, au SNALC, on n'utilise plus le mot vocation, qui a une sorte de connotation religieuse un peu bizarre, et qu'on n'utilise d'ailleurs que pour les professeurs, c'est assez étonnant. Éventuellement, parfois, pour les personnels de santé. C'est des sortes de métiers proches de l'humain qu'on ferait parce qu'on trouve ça génial et pas du tout parce qu'on voudrait être payé, parce qu'un travail, ça sert à ça. En fait, si, on veut aussi être payé.
Oui, aussi.
Et bien payé. Et justement, la cause première, c'est pas la seule, mais la cause première, très clairement, c'est les salaires. On a perdu depuis des dizaines d'années en pouvoir d'achat. Alors qu'aujourd'hui, on est sur un niveau de recrutement à Bac plus 5, concours de catégorie A de la fonction publique, c'est la catégorie la plus élevée. Vous arrivez stagiaire, vous êtes à 1500 euros, vous allez atteindre péniblement les 2000 euros quand vous aurez 40 ans. Vous voyez que ça ne suscite pas non plus forcément l'enthousiasme. Vous parliez par exemple des difficultés chez les professeurs de mathématiques. Mathématiques, c'est une discipline où vous touchez probablement beaucoup plus dans le privé avec vos études.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été l'invité de RTL Midi, Jean-Rémy Girard, président du SNACL, syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur.
Vous
merci
tout.
Beaucoup.
Merci.
Elle ne manque absolument pas à l'appel en cette rentrée scolaire. Je parle de l'inflation. Les grandes enseignes multiplient les opérations coup de poing, annoncent le blocage de prix sur certains produits. Mais est-ce que cela permet vraiment aux consommateurs de s'y retrouver? Autrement dit, Martial Hugh, je me tourne vers vous, est-ce que l'on sent la différence dans nos caddies?
La réalité, c'est que les prix continuent à augmenter, notamment dans l'alimentaire où on a enregistré une hausse de 7% sur un an en juillet, 7% de hausse aussi pour les achats en grande surface. Donc on est même légèrement au-dessus de l'inflation globale, parce que les prix de l'énergie, eux, notamment l'essence, ont tendance à baisser ces dernières semaines, ont eu tendance. Alors donc, vous voyez bien que les acteurs de la grande distribution ne contiennent pas la hausse des prix malgré leur campagne de communication. Il y a des produits en promo, ils sont mis en avant, mais le chariot du consommateur suit la courbe de l'inflation. Je rappelle le bilan de notre panier RTL, un relevé de prix que nous faisons tous les mois depuis octobre, eh bien, il a progressé de 15,37%. En fait, pour endiguer l'inflation, il faudrait faire ses courses dans plusieurs grandes surfaces pour courir toutes les promos, ce que personne ne fait bien sûr, et puis ça coûterait cher en essence pour le coup.
Merci beaucoup Martial Hugh, chef du service économie et sociale de RTL.
RTL Midi.
Il va falloir des semaines, voire des mois, avant que la situation ne revienne à la normale au centre hospitalier de Corbeil-Essonne. Il est totalement désorganisé depuis une cyberattaque ce week-end. L'accès à la plupart des logiciels est bloqué. Pour autant, pas question de payer la rançon de 10 millions de dollars. L'accueil ne concerne plus que les cas vitaux. Les autres patients, eux, sont réorientés, les opérations reprogrammées. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est même un phénomène qui est en augmentation ces derniers mois, les cyberattaques, que ce soit dans un hôpital ou dans une entreprise, le public, le privé. Y a-t-il une procédure à suivre? Que faire en cas d'attaque? Thomas Proutot, vous avez posé la question au général Christophe Husson, commandant en second des gendarmes dans le cyberespace.
Ne payez pas. Enfin, clairement, il ne faut pas payer puisqu'on est sur une forme de prise d'otage numérique, qui voudrait dire aussi que le crime paye. Par ailleurs, le fait de payer avec mise à disposition d'une clé dite déchiffrement ne va absolument pas vous assurer le bon retour à la norme au système. Et par ailleurs, vous pouvez aussi avoir des éléments complémentaires qui sont introduits sur votre système d'information. Donc, il faut rester particulièrement prudent. Ensuite, sur les conseils que l'on peut donner, c'est de faire en sorte d'isoler son système d'information de l'extérieur, de manière à ce qu'un cyberattaquant ne puisse pas rajouter de la pénétration dans le dispositif. Mais les conseils pourront être directement promulgués. C'est vraiment le réflexe qu'on doit avoir, l'appel au numéro d'urgence qui est le numéro 17, de manière à être mis en relation avec les sachants en la matière qui, en fonction de l'attaque à laquelle vous avez été confronté, vous donneront les conseils les plus adaptés pour à la fois limiter encore la surface d'attaque, mais également conserver les preuves susceptibles de pouvoir aboutir à l'identification des auteurs.
Le général Christophe Husson avec Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Certains y verront un symbole de résistance en Ukraine malgré la guerre. Le championnat de foot vient tout juste de reprendre. On en parle dans un instant.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
Midi 49 sur RTL. Demain, cela fera six mois jour pour jour que la Russie a lancé son offensive en Ukraine. Malgré la guerre, le championnat national de foot vient tout juste de reprendre avec une première rencontre entre Kharkiv et Donetsk. Bonjour Julien Fautra.
Bonjour.
Et nous sommes déjà à la fin de la première mi-temps.
Oui, les noirs du métalliste Kharkiv contre les oranges, couleur traditionnelle du Shakhtar Donetsk. Un symbole, deux villes sous les bombes. Derrière le but, une grande porte de sortie. Si les sirènes retentissent, des sirènes qui indiquent qu'une attaque aérienne est imminente. Les joueurs, les arbitres, les organisateurs doivent courir vers un abri à moins de 500 mètres de là. Les joueurs et les arbitres ont fait leur entrée sur le terrain, un drapeau ukrainien sur les épaules. Ces couleurs, jour de fête nationale, sont aussi au cœur du message du président Volodymyr Zelensky, diffusé juste avant le match sur l'écran géant.
Aujourd'hui, à l'ouverture du championnat de football ukrainien, je veux parler non seulement du passé de notre drapeau, mais aussi de son avenir. Le drapeau bleu et jaune de l'Ukraine flottera à nouveau partout où il doit être, et dans toutes les villes et dans tous les villages temporairement occupés d'Ukraine. Pour toujours, notre drapeau ukrainien sera bleu et jaune.
Démonstration patriotique, un soldat blessé donne même le coup d'envoi, et l'hymne ukrainien, l'hymne chanté à tue-tête, ce moment probablement le plus émouvant. Et pour l'anecdote, le score est toujours de 0-0.
Merci Julien Fautra du service étranger de RTL. Hier, 1295 personnes très exactement ont traversé la Manche de façon illégale à bord de petites embarcations. Le gouvernement britannique donne ces chiffres en soulignant que c'est du jamais vu. En France, il existe déjà des centres éducatifs fermés pour certains adolescents. Bientôt, les plus jeunes délinquants pourraient être encadrés par des militaires. Gérald Darmanin, actuellement en visite à Mayotte, dit y réfléchir. Cela reprendrait une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Alors, quand le ministre de l'Intérieur envisage ces lieux de rééducation et de redressement, concrètement, ça veut dire quoi, Guillaume Chiesi ?
Alors, il s'agit d'un encadrement militaire pour les très jeunes mineurs. En clair, aujourd'hui, il existe déjà des centres éducatifs fermés. Ils sont gérés par la protection judiciaire de la jeunesse, mais n'accueillent des adolescents qu'à partir de 13 ans. Lors de son déplacement hier, le ministre de l'Intérieur a évoqué ces enfants de Mayotte âgés de 10, 11 ans, armés de machettes ou de haches et qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Le projet de Gérald Darmanin viserait donc ces cas de figure très spécifiques. Le ministre a assuré hier qu'il ferait des propositions dès la semaine prochaine au président de la République pour envisager la création de ces lieux qui seraient à la fois des centres éducatifs et répressifs. En revanche, on ne sait pas encore ni quand ni combien de centres de ce type pourraient être ouverts.
Merci Guillaume Chiesse du service police-justice de RTL. L'incendie dans le massif des Alpilles est fixé depuis quelques heures maintenant. En moins de 24 heures, 117 hectares ont été parcourus par les flammes. Incendie, sécheresse, mais aussi inondation. C'est sur ce dernier thème que le gouvernement lance une campagne de sensibilisation. Bonjour Valentin Larquier.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de RTL en Occitanie. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, était dans l'Aude ce matin à Conques-sur-Orbiel précisément.
Oui, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a annoncé le lancement d'une campagne de prévention sur les inondations. Elle concerne les 15 départements du pourtour méditerranéen.
Les messages qui vont être diffusés par le ministère de la Transition écologique à partir de demain autour d'un certain nombre de réflexes, comme le fait de ne pas prendre sa voiture, parce qu'on sait que malheureusement on a beaucoup de décès qui ont lieu quand les gens se déplacent dans cette situation, comme le fait d'ailleurs de ne pas se déplacer du tout quand vous avez un risque d'orage dans la période dont on parle, comme le fait de ne pas descendre au sous-sol, de plutôt s'installer dans les étages, etc.
Il y a également un kit d'urgence en situation de crise, avec 6 litres d'eau par personne, les outils de base comme le couteau de poche, une radio, des bougies. Le ministre a conscience que cette annonce en période de sécheresse et de forte chaleur peut sembler décalé, mais les fortes chaleurs peuvent augmenter le risque d'orage et d'inondation. Ici, dans l'Aude, il y avait eu 15 décès en 2018 après de fortes inondations.
Valentin Larquier, le correspondant de RTL en Occitanie. Ciré, pochon à huîtres, immersion en eau salée dans tous les sens du terme dans un instant. Et c'est pour la bonne cause. Notre journaliste Patrick Tégéro nous fait découvrir la vie d'ostréiculteur.
RTL. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon. RTL en immersion.
Cet été, les journalistes de RTL testent un métier qui les passionne. Et aujourd'hui, c'est donc au tour de Patrick Tégéro, notre correspondant en Occitanie. Là aussi, bonjour Patrick.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Donc Patrick, le temps d'une journée, vous avez choisi de devenir ostréiculteur et ce fut une immersion quasiment au sens propre du terme.
Eh bien, c'est la démonstration qu'un reporter peut se mouiller. Il faisait une tramontane de 80 km/h sur l'étang de Le Cat dans l'Aude. On a été bien secoué et malgré le ciré, bien mouillé aussi. C'est Lucas Jolan, le jeune et enthousiaste patron de la cabane L'Hippocampe, qui m'a embarqué.
Donc là, on va prendre la barge, on va aller sur les parcs à huîtres. On va relever les pochons d'huîtres. C'est des huîtres en fait qui sont stockées sur les parcs à huîtres. On va les ramener sur la barge. Arrivé à quai, on va les passer dans cette machine, les laver, puis les calibrer et les préparer pour la vente.
Bon, qu'est-ce que je peux faire moi dans tout ça?
Et bien, tu vas m'aider à charger, j'espère que tu as des gros bras.
Ouais.
Et voilà.
On va essayer en tout cas, on va patauger un peu dans l'eau.
Et on risque de se mouiller parce que ce matin il y a quand même une belle tramontane. L'étang c'est pas un long fleuve tranquille, ouais. Tu verras que ça remue quand même un peu.
Allez, on enfile le ciré jaune traditionnel.
Alors, tu peux t'accrocher à la console. D'accord.
On a beaucoup de navigation ?
Non, là on a 10 minutes. Donc là on vient d'arriver sur le parc à huîtres, on a bien amarré la petite barge. Le long de ces perches, il y a des cornes, et au bout de ces cornes, il y a ce qu'on appelle des pochons. Et dans chaque pochon, on met les huîtres qu'on a déjà récoltées en stockage et en affinage. Tu vas attraper une corne, il y a une œuf magique, vas-y tu peux tirer. Voilà. Super. Et là on relève le pochon avec les deux mains.
D'accord.
Voilà, parfait. T'as vu, c'est lourd, hein ?
C'est pas mal, ouais.
Et on laisse le pochon sur le bateau.
Ouais.
Et on va répéter l'opération une trentaine de fois.
Voilà.
Voilà. Une bonne rafale.
Bonne rafale de vent, ouais.
Obligé de se tenir mutuellement.
Ouais. C'est la confraternité des hommes de la mer.
Voilà, tout à fait.
Oh. Bon, bah, j'espère que le magnétophone aime l'eau salée. On verra ça tout à l'heure en arrivant.
Allez, ça roule. C'est quand même excellent de partir sur l'eau chaque matin. Suivant les époques, il y a un paysage différent.
Ouais.
Arrivé à l'hiver, on va trouver le manteau sur le manteau de neige blanc
sur le canigou.
Sur le canigou. Et c'est avec cette alchimie d'ailleurs qu'on arrive à faire joli coquillage.
Allez, on va le ramener maintenant.
Et une fois séché, Patrick, très logiquement, vous avez pris un cours d'ouverture d'huître.
Oui, car devant l'emplacement du bateau et la partie technique, il y a la salle de la cabane, une douzaine de tables où Lucas fait déguster sa production.
Je tiens mon huître de la main gauche.
La pointe en bas.
La charnière en bas, effectivement. Ouais. Et là, sur le haut de l'huître, on plante la lame entre les deux coquilles. On pousse l'huître sur la lame du couteau, raccourci par le pouce.
Mmh.
Et là, on va aller chercher le tendon. On le sectionne.
Que c'est beau. Et c'est bon ?
Eh bien, tu vas me dire ça de suite.
Merci. Parfait.
Dès le matin, c'est
Ah, il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de meilleur. On peut en abuser des huîtres, ça rend pas malade, on peut pas avoir de soucis.
Non, a priori, non. C'est même bon pour la santé, c'est plein de fer, de minéraux.
Et d'iode, hein.
Et d'iode.
Presque autant que ce qu'on a pris dans la figure en allant les chercher.
Ah oui.
Merci. Merci, Lucas.
Avec plaisir.
Que penses-tu de ma prestation ?
Ah, oh, mais c'était génial.
Tu m'embauches ?
Je t'embauche, ouais, on a passé un beau moment, t'étais efficace quand même,
ouais.
On a relevé un paquet de poches, donc tu reviens quand tu veux, hein.
Bon.
Mais pas que pour manger les huîtres.
Alors Patrick, ce ciré jaune, vous le gardez ou pas ?
Ben pourquoi pas, hein, ce serait une belle reconversion après tout au contact de l'eau salée, de la nature, de la clientèle. Mais je vous rassure, ma passion pour le reportage reste intacte. Et puis pour devenir ostréiculteur, même si la formation est rapide, 3 mois, les stages faciles, il faut attendre qu'une concession se libère. Il n'y a que 10 ostréiculteurs sur l'étang de Leucat, mais quel beau métier et quel bel endroit. Un grand merci à Lucas pour m'avoir fait partager sa passion.
Merci à Lucas et merci à vous, Patrick Tégéro, à réécouter évidemment RTL en immersion sur notre site RTL et notre appli RTL. Dans un instant, ce sont les auditeurs ont la parole, au 3210 évidemment. RTL Midi.